Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'heure du crime pour une nouvelle édition de cette émission avec Justine Vigneault, avec Laure Broulard, qui n'a pas eu trop de travail aujourd'hui d'ailleurs, il faut dire, parce qu'il n'y a aucune archive sonore à passer dans notre émission. C'est Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime. Et à la une de notre émission, un personnage, vraiment un personnage de film, de série B et de série noire, qui se faisait appelé Monsieur Bill, à propos de qui on peut se poser la question de savoir comment un jeune bourgeois du 16e arrondissement s'est cru, effectivement, dans la réalité. En pleine série noire, il a fini par tuer, de façon d'ailleurs terrible, des crimes qui ont bouleversé la France de l'époque, il a tué deux personnes. Alors, c'est un cas à part dans les annales du crime, c'est un cas à part dans sa personnalité, entre mythomanie et je ne sais même pas comment qualifier son attitude. On va essayer de le faire, de cadrer le personnage avec mes invités. Alors d'abord, Mathieu Frachon, bonjour.
Bonjour.
Ancien grand reporter, auteur, conférencier. Vous êtes surtout connu comme un spécialiste de l'histoire de la police et du 36 qui est des Orfèvres. D'ailleurs, vous préparez un prochain livre, je crois, sur l'anti-gang.
Sur la brigade anti-gang qui a fêté ses 50 ans le 22 septembre.
Voilà. Et donc, votre livre paraît le 24. C'est un hasard tout à fait extraordinaire, aux éditions Pygmalion. On reparlera à la fin de l'émission un petit peu de ce qu'il y a dans ce film, parce qu'on aime bien, dans ce livre, parce qu'on aime bien en savoir un petit peu avant tout le monde. Et puis alors, il y a une autre originalité à l'émission d'aujourd'hui, parce que vous devez vous demander de temps en temps, mais pourquoi il nous raconte l'histoire de ce monsieur Bill aujourd'hui? Eh bien alors, la raison, c'est que par RTL.fr, où vous le savez, on vous invite à nous contacter pour nous dire si vous avez été marqué par une histoire criminelle, de nous donner des éléments pour que éventuellement on mette cette histoire à la une de l'émission. Ben, on a reçu un message de la famille d'un monsieur qui s'appelle Daniel, qui a 78 ans, l'âge qu'aurait monsieur Bill aujourd'hui, et on parlera avec lui dans une quinzaine de minutes. Alors que disait ce message de la membre de la famille de monsieur Daniel, on va l'appeler, eh bien il disait, mais on a retrouvé dans les papiers de famille une photo de mon père avec monsieur Bill. Il avait 17 ans, il jouait au baby-foot. On s'est dit, c'est quand même extraordinaire. On a un témoin de première main, hein, Mathieu Frachon. On en rêve quand on raconte des histoires.
Oui, c'est rarissime.
Comme celle-là. Alors, on joindra donc Daniel tout à l'heure au téléphone. Mais d'abord, peut-être avec vous, Mathieu Frachon, un mot sur... Je disais que j'arrivais pas à qualifier le personnage. Il y a la mythomanie, il se prend pour un truand, il se balade à Pigalle, accoutré comme un gangster de film.
Il est absolument extraordinaire, on en aurait rêvé, ça pouvait pas être mieux. Il s'est laissé pousser les rébanes, si j'ose dire. Il a la coupe en arrière du voyou,
ouais.
La dégaine du voyou. Bon, à l'époque, les jeunes gens de bonne famille sont de toute façon en costume cravate, donc lui ne déroge pas à la règle.
Ouais.
Et il a les manières.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il se balade calibré sous les aisselles.
Ouais.
Il fait le beau dans les bars de Pigalle.
Ouais. Il imite l'accent corse.
Mal, alors que, oui, très mal, apparemment.
Il y a beaucoup de Corse à l'époque, à Pigalle.
Ah ben, Pigalle est encore
il
tenu.
Il le détecte tout de suite.
Ben, Pigalle est encore tenu par le milieu corse.
Ouais.
Et évidemment, il passe des nuits et des nuits au poker, à perdre des sommes considérables.
Ouais. Mais ses parents,
il est fils de bonne famille, donc tout va bien. Hein. Ouais. Bref, il joue les truands et il a toujours à la main un livre de la série noire. La série noire est très récente, hein, à l'époque. Elle a à peine 15 ans, je crois.
Ouais.
Même pas. Et la série noire, eh bien, il se nourrit de ça. Il se prend pour un truand. En hiver, il se balade avec le bitos, donc le chapeau incliné sur l'œil. Bref, il joue son personnage à fond.
Voilà. Et en plus de tout ça, si j'ose dire, il se prendrait bien pour le futur James Dean français. Il prend des cours de théâtre et donc en fait il joue son propre rôle dans la vie, et ça fait partie quand même de l'exception de ce personnage. Alors on va vous retrouver dans un instant, Mathieu Frachon, ensemble on va raconter évidemment les faits. Mais d'abord, je pense à ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas cette histoire, qui la découvrent aujourd'hui, cette histoire, pour essayer de mieux comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de ce personnage qui s'appelait Georges Rapin. Monsieur Bill, c'était évidemment son personnage. Il faut revenir sur l'ambiance, justement, du Pigalle de la fin des années 50, où cette histoire digne d'un roman de la série noire, comme vous l'avez dit, a commencé. Ces années-là, c'était celle du gang des Tractions Avant et de Pierrot le Fou, des films de Melville comme Joel Flamber ou Touchez pas au Grisby, Jean Becker, avec Jean Gabin dans le rôle de Monsieur Max. C'était les grandes années de la série noire, Le Cave sur Bif, Razzia sur la Schnouf, les années Hitchcock aussi, Surfroide, La Soif du Mal d'Orson Welles. Pigalle, c'était bien sûr la capitale des truands, des julots casse-croûtes qui régnaient sur les fleurs du pavé, les marcheuses, les chandelles comme on les appelait. On allait boire un verre pour s'encanailler au Gavroche, le bar de Joatien, ou au Pilouface de la place Victor Massé. Les effeuilleuses et autres stripteaseuses passaient d'une boîte à l'autre sous le regard des michetons en goguette. Le terre-plein central du boulevard de Clichy, on l'appelait l'allée des veuves, ou encore le boulevard des allongés, à cause des règlements de compte entre bandes rivales, les Corses, les Arabes, les Hongrois, les affranchis du quartier avaient la gâchette facile. En ce temps-là, le plomb, disons-le, n'était pas une denrée rare. C'est dans cette atmosphère que Georges Rapin, fils de bonne famille, fasciné par le milieu, s'inventait des braquages et dépensait sans compter, en fait, l'argent de sa grand-mère et de son père qui avait fini par lui acheter un premier bar, le Bill's Bar, et puis un second, le Porto, qu'il avait laissé en gérance à son ami, un certain Granier, un ami qui finira par le dénoncer à la police. Avec ses cheveux gominés, sa fine moustache, ses lunettes fumées et ses fringues de frimeur, Monsieur Bill paradait, revolver 7.65 à la ceinture ou sous l'aisselle, au volant de sa Dauphine Gordini. Et c'est au Sans Souci, une petite brasserie de nuit de la rue Pigalle, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'il avait rencontré Muguette. Muguette, on l'appelait aussi Dominique, ou Domino, c'était son nom de guerre, une jeune entraîneuse. Et cette jeune entraîneuse, il voulait la faire passer, pour sa gagneuse. Et puis dans cette nuit du 29 au 30 mai 1959, Monsieur Bill emmène Muguette dans la forêt de Fontainebleau, mais ce n'est pas pour une promenade sous la lune. On la retrouve le lendemain, brûlée vive, avec 5 balles dans le corps. Georges Rapin, Monsieur Bill, va ensuite rejoindre sa fiancée officielle, Nadine, une jeune apprentie coiffeuse à qui il demande de dire, si on l'interroge, qu'elle a passé la nuit avec lui. Mais l'alibi ne tiendra pas bien longtemps, car les policiers retrouvent la trace de Dominique Tirel, c'est son nom, grâce à ses escarpins que le feu avait épargnés, des talons aiguilles vendus à Pigalle. Et ils apprennent que Dominique fréquentait le Sans Souci. Alors du Sans Souci à Monsieur Bill, il n'y avait qu'un pas, et Georges Rapin est retrouvé grâce au numéro de la plaque d'immatriculation de sa voiture, communiqué, disons, par un témoin providentiel. Eh oui, les vrais caïds ont fini par donner le demi-sel au commissaire Chomeil qui mène l'enquête. Rapin est arrêté dans l'appartement luxueux du boulevard Saint-Germain chez ses parents. Il se tait, il proteste de son innocence, il pense que les policiers n'ont aucune preuve contre lui. Mais il a oublié son cher ami Granier, le gérant du Bill's Bar, à qui il avait trouvé malin non seulement de lui faire part 8 jours plus tôt de ses projets de liquider une fille, comme il avait dit, mais aussi de lui avoir confié son flingue et le couteau à cran d'arrêt de Dominique qu'il avait gardé en souvenir. Granier, entendant à la radio l'annonce de la découverte du corps de Dominique Tirel en forêt de Fontainebleau, apporte l'arme du crime et le couteau à la police. En garde à vue, Monsieur Bill se met à table, il balance tout. Nadine est incarcérée pour faux témoignage. Devant le juge d'instruction, Georges Rapin confesse alors, sans qu'on lui demande rien d'ailleurs, son crime parfait de l'année précédente. Le meurtre d'un pompiste à Villejuif. Le malheureux, qui s'appelait Roger Adam, ancien déporté, père de 3 enfants, a eu, dit-il, le malheur de le traiter, lui, Monsieur Bill, de petit con, en lui servant de l'essence. Alors il l'a tué. À la sortie du cabinet du juge, il lance aux journalistes présents, je le cite, c'était dans toute la presse, « Merci messieurs pour être venus aussi nombreux. Je dois être quelqu'un. Vous avez raison de prendre aujourd'hui vos clichés. C'est le plus beau jour de ma vie. » Le 26 juillet 1960, il faudra une demi-heure au juré pour condamner à mort Monsieur Bill. Il avait 23 ans. Il venait de réussir le premier suicide par la guillotine. Et c'est peut-être pour cela qu'on se souvient encore un peu de lui aujourd'hui.
RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
La suite de la vie incroyable de Monsieur Bill à Pigalle avec Mathieu Frachon dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime, c'est Mathieu Frachon, grand spécialiste de l'histoire de la police et qui a raconté dans ses livres de très nombreux faits divers comme celui-ci. On en parlait hors micro, d'ailleurs vous me disiez, on en a beaucoup parlé juste avant l'exécution, mais à l'époque, il y avait d'autres affaires qui avaient pris le pas sur l'actualité.
Monsieur Bill n'a pas de chance. Parce que finalement, la postérité qu'il voulait, ou du moins, enfin la postérité, la célébrité qu'il voulait, il va l'atteindre très partiellement. Ouais. Il va l'atteindre, effectivement, parce que l'horreur du crime va choquer tout le monde. Et puis c'est la grande époque des journaux qui titrent sur les faits divers, France Soir, Le Parisien Libéré, etc. etc. Ouais. Mais, en revanche, il y a une affaire qui va le supplanter, qui est l'affaire Vivier-Sermeus. Deux jeunes gens qui se montent le bourrichon pour essayer de faire un hold-up. Ouais. Pour cela, ils vont voler une voiture. Ils vont dans le bois de Boulogne, je crois. Ils tombent sur un couple qui est en train de se bécoter dans une 203. Ils abattent le couple et ils partent. Ouais. Et là, ça va faire beaucoup, terrible. Beaucoup de bruit. Ouais. L'histoire est terrifiante.
Alors,
L'affaire est traitée par la première brigade mobile. Mm-hmm. Pas par le 36 qui est des Orfèvres, puisqu'elle a lieu à Fontainebleau. Donc, le retentissement est moindre puisque les journalistes s'attachent moins au pas de la première mobile.
Alors, ce qui a lieu à Fontainebleau, Mathieu Frachon, c'est le meurtre véritablement horrible d'une jeune prostituée. Monsieur Bill l'avait rencontré au Sans Souci, à Pigalle, rue Pigalle, et il avait envie de faire penser qu'il avait puni cette prostituée parce qu'elle n'avait pas voulu lui donner l'argent qu'elle lui devait, c'est ça.
Mais en fait, c'est très flou. C'est très flou. On a l'impression, d'après les éléments de l'enquête qu'on a pu recueillir après, on s'est rendu compte que apparemment, il avait monté une sorte de combine avec le Mac officiel de cette jeune fille, lui avait proposé de racheter la fille. Que le type l'avait traité un peu, bon, comme ça, en disant, allez, on va dire oui, et puis on va secouer son Grisby au branquignol, simplement, c'est un cave, pour les hommes du milieu, c'est un cave, ni plus ni moins. Et, se rendant compte qu'il est un peu floué et que la fille se fout de sa figure, il aurait décidé de la punir. Voilà un peu l'histoire, telle qu'elle est, qu'elle a circulé dans le milieu.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que on a que des rumeurs qui ont circulé dans le milieu, parce que pendant l'instruction, il n'a rien dit vrai. Enfin, tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est ce que Monsieur Bill a dit. Mais quand on sait qu'il s'est aussi accusé de 11 autres crimes qui étaient parfaitement imaginaires, donc ça laisse à penser que la réalité n'a peut-être pas été dite à l'époque. Alors, il y a 2 meurtres. J'aimerais que vous me disiez dans quelles circonstances on a appris l'existence du premier meurtre. Parce que voilà, c'est ce personnage dont on a parlé, fréquente les bistrots, bon, il se fait prendre pour un gangster. Finalement, il va emmener cette prostituée dans la forêt de Fontainebleau, il va la tuer, la brûler vive,
Les circonstances de crime sont absolument abominables.
Et... dites-moi, rappelez-nous comment l'enquête a abouti très vite, finalement, grâce à un grain de sable. C'était, en l'occurrence, les chaussures de la victime.
En fait, apparemment, à l'époque, on a des souvenirs qui ont été recueillis par Maurice Josco, qui était l'un des chiens de chasse d'un extraordinaire fait diversier à France Soir. La police a montré à tout le monde ces fameuses chaussures et a fait diffuser un avis.
Des escarpins de soirée, quoi.
Des escarpins de soirée, mais roses. Rose, escarpin au talon, tout le monde a pensé immédiatement à une prostituée.
D'accord.
Donc derrière, les policiers et la presse s'est mis aux trousses du fabricant qui je crois était à Angers, et le fabricant il a livré la liste de ses clients, les magasins.
Les magasins, bien sûr.
Il y a un magasin qui est rue du Perret à Paris. Ils montent à ce magasin, ils trouvent, les policiers trouvent, et Maurice Josco, qui les précède de quelques heures, trouve...
C'est souvent les journalistes arrivés avant les flics.
Josco était assez redoutable dans l'exercice. Et trouve, donc effectivement, plus ou moins des clients, parce qu'évidemment, il n'y a pas de registre. Et on a vendu, je crois, une dame qui s'appelle Dominique, ou un truc comme ça, Domino, c'est pas bien. Josco, lui, en parallèle, va aller dans un endroit où les policiers ne vont peu et où on ne leur parle pas, c'est-à-dire chez les voyous, qu'il connaît aussi bien que les arcanes de la police judiciaire. Et il y a un des types du son souci, qui est un haut lieu de la, du banditisme pigalien, qui lui dit « Écoute, la fille, elle s'appelle comme ça, etc. etc. » Alors, est-ce que Josco a directement renseigné le commissaire Chomeil ? Ça, on ne sait pas.
Mais c'est comme ça qu'on arrive.
Démarre comme ça.
L'histoire va avoir beaucoup, beaucoup de rebondissements parce que pour le moment, on ne pense qu'à un crime horrible, certes, mais on a arrêté le criminel, ça pourrait s'arrêter là et ça ne va pas du tout être le cas.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes en compagnie de Mathieu Frachon, spécialiste de l'histoire de la police et des affaires criminelles. Dans un petit instant, on aura Daniel au téléphone, cet homme qui a retrouvé, enfin, dont le fils, je crois, Rudy vient de dire ça tout à l'heure, mais son fils a retrouvé une photo des années 60, quoi, ou des années 50 plutôt, 54, je crois, il nous dira. Et sur la photo, on a l'impression de voir Johnny Hallyday au golf Drouot avec ses copains à l'époque. Ils ont tous la banane, ils ont tous un look incroyable. Et sur la photo, il y a Monsieur Bill. Alors, évidemment, il n'admire pas M. Bill pas pour ses forfaits criminels, il va nous dire tout ça. Il a découvert complètement dans la presse et par surprise ce qu'était devenu son ami d'adolescence.
C'est une double face totale,
enfin, M. Bill. Voilà. Et, alors, justement, Mathieu Frachon, comment on en arrive, après l'arrestation de M. Bill pour le meurtre de la prostituée, comment on en arrive à découvrir que c'est pas la première fois qu'il a tué ?
En fait, d'abord, il va commencer évidemment à nier. Il va pas, les premières 24 heures de garde à vue, il nie. Puis devant l'accumulation des preuves, le flingue, etc., etc.
Le couteau personnel de la jeune femme,
etc., etc. Bref, il ne peut pas s'en tenir là. Donc il finit par avouer, il dit... Il va toujours la jouer un peu grand seigneur et grand voyou. Écoutez, commissaire, vous avez gagné. Bravo pour votre enquête. Voilà, j'avoue. Mais je n'ai pas fait que ça. Le commissaire est un peu interloqué. Il s'est fait déjà une idée du personnage. Et il commence à l'interroger. Et donc, lui confesse crime après crime. Et on arrive à un crime qui reste impuni.
Crime après crime, c'est-à-dire que là, le crime qui reste impuni est un vrai crime parmi les 12 autres
qui sont totalement imaginaires. D'accord. Et à un moment, le commissaire tic, parce que justement, c'est du ressort de la brigade mobile. Ouais. Et il y a un crime d'un pompiste. Oui. Qui est totalement impuni, qui a lieu un peu plus d'un an avant.
Oui. Il dit, attendez, en pleine nuit.
Qu'est-ce qui s'est passé ? L'autre raconte à sa manière. C'est-à-dire, M. Bill explique, il m'a manqué de respect, question d'honneur, etc., etc. Très vite, Chomeil démêle le truc, se dit, il me raconte n'importe quoi, ou alors pas. La première mobile, c'est comme le 36, c'est comme la criminelle du 36, c'est-à-dire c'est un rouleau compresseur, il vérifie. Et il va vérifier, et surtout, il va se rendre compte que la presse n'a jamais parlé de plusieurs détails que M. Bill, donne.
D'accord.
Notamment le temps qu'il faisait. La presse s'étant contentée de dire qu'il faisait froid, gris, etc.
Et lui, il neigeait. Deux heures ou trois heures.
Exactement.
Voilà.
Donc, du coup, là, il en est persuadé. Même s'il ne sera pas jugé pour ce crime, il va quand même en être chargé.
Oui, bien sûr. Alors, ce malheureux pompiste s'appelait Monsieur Georges Adam. Et j'ai dit une bêtise ? Non, j'ai pas dit de bêtise. Bon, je sais pas parce que je me regarde avec des gros yeux. Et le fils de ce monsieur nous a appelé tout à l'heure au standard au 3210. Et on le prendra donc parce que évidemment, il avait 8 ans à l'époque, mais c'est un événement qui a bouleversé sa vie. Et donc, il sera à l'antenne avec nous tout à l'heure en direct. Alors, les policiers vont faire le tri entre les fausses histoires de crime et les vraies histoires de crime. Les parents de Georges Rapin ont dû tomber des nues.
Ah, ils tombent des nues, parce que pour sa maman, Georges Rapin, c'était Pimpin. C'est un enfant unique, élevé, choyé, gâté, pourri, tout ce que vous voudrez comme qualificatif.
Oui, parce que son frère aîné était décédé.
Son frère aîné était mort en bas âge, tout s'est reporté sur lui. Il est rachitique, il fait 1m40, 1m45 à 14 ou 16 ans. Donc il a fallu lui poser des prothèses très douloureuses, très lourdes pour à peu près essayer d'étirer sa taille jusqu'à un seuil. Donc, je ne vais pas qualifier de normal, mais un seuil, disons, acceptable dans ce milieu, etc., etc. Il est couvé, pourri, gâté. Il entame une carrière théâtrale. Ouais. On lui paye les cours.
Ses parents lui ont offert une librairie.
On lui offre une librairie.
Deux bars.
Bref, une Dauphine Gordini, qui est l'équivalent à l'époque des R5 Turbo de nos jeunes années, c'est-à-dire. Ouais. Bref, il est.
Et les parents ne croiront jamais d'ailleurs qu'il a été l'assassin qu'on présente dans la presse, parce que, on va le découvrir tout à l'heure ensemble, au cours du procès, Monsieur Bill s'est totalement rétracté et il a encore inventé des scénarios pour expliquer sa présence.
Au grand désarroi de son avocat.
Au grand maître Florio, parce que comme la famille a de l'argent, on avait pris un des ténors du baron pour le défendre. Alors on va faire une pause et puis on va prendre Daniel, donc notre auditeur qui a 78 ans aujourd'hui, donc c'est l'âge qu'aurait à peu près Georges Rapin, puisqu'il avait 23 ans, 60, il aurait 77 ans. À tout de suite.
L'heure du crime sur RTL.
Nous allons maintenant prendre en ligne Daniel. Daniel qui a été un ami d'enfance et d'adolescence de Georges Rapin, donc le futur monsieur Bill. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Alors merci d'avoir accepté cette conversation, parce qu'en fait c'est votre fils qui nous a envoyé un message sur RTL.fr en disant j'ai retrouvé une photo de mon père avec monsieur Bill. C'est vous qui lui avez dit que là sur la photo, ce type-là, c'est monsieur Bill qui a été un des assassins les plus médiatisés de l'époque. Comment il était vous y étiez rencontré, je crois, parce que en Normandie, avec vos parents, quoi.
C'est ça, en vacances à Trouville.
Oui.
Et bon, on était toute une bande de copains. Et puis un beau jour, il a apparu, on sait pas trop comment, et puis on en a fait un copain,
Ouais. Qu'est-ce que vous diriez de vos souvenirs de l'époque? Parce que un copain, c'est-à-dire on va au bistrot, on va au resto, on va...
Non, il faisait partie de la bande, quoi. Ouais, c'était un habitué.
Ouais.
On se retrouvait des fois très le matin, dans la matinée, voire même tard le soir. On arpentait les planches, quoi.
Et on a beaucoup parlé, là, tout à l'heure, avec Mathieu Frachon, du côté mythomane, appelons les choses par leur nom. Et déjà, à cette époque-là, il était un peu...
Oui, et il cultivait, si vous voulez, le mystère autour de lui. Il faisait en sorte que l'on se pose toujours des questions à son sujet. Il était mystérieux comme type. C'était un type étrange, quoi. Voilà. Et bon, mais autrement, on n'a jamais eu de problème, à proprement dit, avec lui. Il aurait pu faire des blagues, mais ça n'a pas été le cas.
Ouais, mais son côté mytho, pour vous, c'était pas une plaisanterie. Vous moquiez de lui, quoi, en fait.
Moi, je me moquais ouvertement de lui. Je le prenais pas du tout au sérieux. Je lui donnais une tape dans le dos, ou sur le ventre, en disant « Oh, sacré Georges !» Et puis voilà, on en restait là.
Quel look, on dirait aujourd'hui, quel look il avait à l'époque?
Il y avait un look qui était totalement anachronique avec l'époque. Il était toujours soit habillé de trop, parce que moi, j'ai jamais vu en maillot de bain, vous voyez.
Ouais, donc pudique,
Il avait des espèces de petits sous-pulls, comme c'était la mode à l'époque, mais il les mettait l'un par-dessus l'autre. Des fois, il en avait trois, il en avait quatre, toutes les couleurs. Et puis, il était assez crasseux, faut bien le dire. On voyait la ligne de démarcation au niveau du cou, qui était crasseux. Il faisait du camping, à l'époque, il avait trouvé un petit camp de camping entre Trouville et Villerville.
Et là, il avait le côté lunettes noires, chapeau déjà, ou c'était trop jeune encore?
Je lui ai éclaté de rire au dé. En temps normal, il n'avait pas tout ça.
Ouais.
Mais un beau jour, j'ai eu rendez-vous avec lui, avec une copine d'ailleurs, qui est encore de ce monde et qui aurait pu éventuellement vous parler.
Ouais.
Et donc, nous avions rendez-vous avec lui, métro BAC. Hein.
Mm-hmm.
Et bon, bah, je l'aperçois. Alors, il était petit, hein, c'était un petit nabou, hein, il n'était pas du tout impressionnant comme garçon. Et je vois un type arriver en imperméable, assez long, chapeau mou, lunettes noires très enveloppantes, vous voyez.
Ouais, je vois, ouais.
Et puis il s'approchait de moi, il me dit bonjour Daniel. Je dis bonjour Georges. Bah, déjà j'avais envie de rire. Hein.
Ouais.
J'ai failli lui éclater de rire au nez.
Ouais.
Et puis bon, on discute un peu. On a pris un pot là au café qui fait l'angle du boulevard Saint-Germain et du métro BAC.
Ouais, pas loin de chez lui.
Et à la suite de ça, bah, il a voulu absolument nous inviter chez lui pour qu'on voit, hein, simplement.
Ouais.
Et il avait enfin. Ses parents avaient un appartement au boulevard Saint-Germain, à une centaine de mètres du métro BAC.
Ouais, ouais.
Hein. Alors on est monté, je crois que c'était au deuxième étage, il y avait une porte par palier.
Ouais. Et c'est là où vous avez découvert son,
double battant, vous
son univers, oui. Avec, il y avait sa grand-mère, hein, je crois, qui le couvait
sa
beaucoup.
Sa grand-mère, ouais, ouais. Non, demeurait pas là avec lui. Sa grand-mère, elle lui faisait des cadeaux, elle arrêtait pas de s'occuper de lui en lui, en lui donnant de l'argent. Ça l'a pourri d'ailleurs.
Mais dites-moi, Daniel, en fait, que, bon, ça sont des souvenirs, vous saviez évidemment pas à l'époque ce qui allait se passer, les tragédies qui allaient se passer plus tard. Il était attiré par le côté roman noir, mauvais garçon, ou pas à l'époque?
Oui, parce qu'il avait quand même des dispositions. Hein, enfin, on n'avait pas vraiment de quoi se plaindre, nous étant des copains, mais il n'a jamais fait de blague, mais par contre. Il nous faisait du pipeau, quoi. Tout ce qu'il racontait, c'était effectivement à base de ce genre de choses.
Puis alors, vous êtes perdu de vue, après, vous êtes parti faire votre service militaire,
hein,
c'est ça, ouais. Comment vous avez, quand il y a eu cette, parce qu'il y a eu une grosse couverture médiatique, comme on dirait aujourd'hui, au moment du procès, quand vous avez découvert ça, quand vous avez su ce qu'il avait fait?
Eh bien, figurez-vous que j'étais à l'époque, j'étais au service militaire, j'étais à Casablanca, et avec ma mère, on avait l'habitude, elle et moi, de correspondre, on s'écrivait tous les jours. Et puis un beau jour, bon, j'ouvre sa lettre, et il y avait la page de François, pliée en quatre, et une lettre. C'était ma mère, en me disant « Tiens, je te vois, voilà la première du journal France Soir. Tu vois, avec tes... Comment dirais-je, avec
fréquentations,
tes...
fréquentations douteuses. »
En plus.
Ouais. Voilà, bon. Bah, enfin, bon, vous n'avez pas dit, tu finiras sur l'échafaud.
Enfin, bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Alors c'était comme ça, donc où je voulais en venir. Là.
Ben non, voilà, parce que on a fait un peu, on voulait avoir votre éclairage de l'époque, parce que bon, c'est vrai que il y a pas de leçon à en tirer particulière, pas écrit criminel sur le front des criminels.
Ah, par contre, il y a une chose importante à propos de ce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est le jour où nous sommes rencontrés là, métro BAC. Donc, il arrive habillé comme un clown, hein, et tout. Mmh. Et puis, pour m'en foutre plein la vue, il m'ouvre son imperméable et tout, et il me montre qu'il avait un pistolet sous l'épaule.
Sur un holster, comme dans les films. Quoi,
c'est
voilà.
Calibré
sous les
aisselles, comme on dit. Donc, il était armé, là. Ouais. C'était pour me de...
Ouais.
C'est quand même curieux, quoi. Hein.
Bah oui, on comprend
et
mieux
puis,
le personnage.
Je le rencontre à Paris... je le suis boulevard rue Saint-Denis.
Ouais.
Il s'arrête à côté d'une fille, il discute 5 minutes et puis la fille lui donne de l'argent, vous voyez.
Ah d'accord.
Alors bon, donc il avait quand même, il n'était pas clair comme garçon.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Daniel, d'avoir accepté cette conversation. Il vous reste cette photo, évidemment. Et puis donc, avec Mathieu Frachon, on va continuer à parler dans un petit instant de Monsieur Billy. On va surtout évoquer le procès. Je vous remercie infiniment, Daniel. Une pause tout de suite, et puis on retrouvera. Après la pause, également un autre témoignage. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qui a rencontré M. Bill, mais qui a, disons-le, souffert par M. Bill. Il avait 8 ans à l'époque, son père était pompiste, il s'appelait Roger Adam, et ça a été un crime gratuit. Et il nous a appelé tout à l'heure Bernard, donc le fils de Roger Adam, qu'on aura au téléphone.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors, Mathieu Frachon, au procès d'assises, évidemment, où il n'est accusé que du meurtre de cette jeune prostituée, mais on va évoquer, évidemment, les deux crimes, hein, celui du pompiste et celui, donc, le débat commence sur l'histoire de Domino, on va dire. Et là, coup de théâtre, en fait, il dit, mais non, je suis innocent, j'ai tout inventé, mais je vais vous dire pourquoi.
Il présente des explications totalement abracadabrantes, dantesques, comme disait un ancien président, en partant sur des choses.
Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, pour le meurtre de la prostituée? Il dit, c'est un soutien qui l'a tué.
En fait, sous mes yeux. Son Mac qui l'a tué, qui l'a puni. Et, moi, je me suis arrangé avec son Mac, je sers d'alibi, l'autre est parti,
Ah oui, pendant que je m'accusais, voilà. Lui, il pouvait aller se mettre au vert, mais je vous dirai pas où il est.
Je vous dirai pas où il est, parce qu'un vrai homme d'honneur ne dénonce pas ses amis. Ouais, enfin, bref. Ouais. Il est complètement dans son truc. Il fait totalement le désespoir de son avocat ce jour-là.
Ben oui. Parce que le maître Floriot, c'est quand même une pointure du barreau.
C'est le ténor de l'époque. Même.
Pourquoi n'a-t-il pas plaidé la folie? Parce que là, le personnage qu'on décrit, il y a comment, enfin, je sais pas, peut-être pas de quoi dire qu'il était irresponsable, parce qu'il était quand même très conscient de ses actes. Hein.
On connaît tous l'époque, à cette époque-là, c'est encore l'article 64 qui s'applique. L'article 64,
enfin, il aurait peut-être sauvé sa tête, on va dire. Hein.
Il aurait été condamné à perpétuité. Circonstance atténuante. Ouais. C'est ce que voulait faire Floriot.
Ouais.
Impossible. Ouais. Monsieur Bill, donc Georges Rapin, lui a dit non, vous plaidez magnifiquement pour Nadine parce qu'il voulait vraiment sauver sa petite amie, mais en revanche, pour moi, je reste fidèle à ma ligne, c'est comme ça, c'est pas autrement. Floriot a tout essayé pour le faire changer d'avis.
Alors, ce qu'il faut ajouter, donc en fait, le jury a délibéré une demi-heure.
Oui, c'est très bien.
Donc c'était vraiment certain, quoi. Tous les journalistes qui ont assisté, tout le monde. Savait que...
Pour tout le monde, c'était la bascule, ce qu'on appelait la bascule à Charlot, quoi.
Voilà. Et la bascule à Charlot, c'était le 26 juillet, donc, 1960. Et les derniers moments de Monsieur Bill ont été racontés par le bourreau lui-même, André Obrecht, qui a écrit un livre de souvenirs plus tard. Et il a dit, c'est pour ça qu'on a parlé dans la presse de suicide par guillotine. Mmh. Il dit, je le cite, j'ai noté les deux phrases, là, signées André Obrecht, il parle du secret de l'exécution, quoi. Et il dit, Monsieur Bill a mis en scène lui-même son suicide légal. Il a coupé le col de son veston et de sa chemise. Et à notre arrivée, il riait. Et le bourreau ajoute, il riait, mais il devait être déçu de n'avoir personne pour l'interviewer et pour immortaliser son cabotinage. Il est quand même mort avec courage. Voilà.
C'est ce que dit Boudard, d'ailleurs, dans son, dans son livre, qui explique que Monsieur Bill est monté à la guillotine bien plus courageusement que certains grands caïds ou grands voyous.
Peut-être que sa folie lui a permis d'incarner
une dernière fois son rôle, tout bêtement.
Alors, il y a une chose terrible qui s'est passée pendant le procès. On va peut-être en parler avec Bernard tout de suite. Le fils de Roger Adam, donc le malheureux pompiste, on peut parler vraiment de crime gratuit, hein, puisque cet homme a été exécuté littéralement... sous un prétexte complètement idiot, enfin bon. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Oui, merci beaucoup, parce que c'est le temps ne compte pas, hein, quand on parle de la mort d'un père. Je suppose que c'est une affaire qui est au centre de votre vie, tout ça, encore aujourd'hui. Hein, vous aviez 8 ans. Oui. Et dites-moi, votre mère n'a pas été admise au procès, j'ai vu ça quelque part, parce qu'elle n'était pas mariée légitimement à votre père?
Oui, absolument, oui. Il devait se marier.
Ouais.
Et malheureusement, la catastrophe est arrivée avant. Et à l'époque, un mariage, c'est pas comme les mariages actuellement, on fixe une date, etc. Alors que là, non, il fallait économiser, etc. Et puis, le drame s'est produit. Voilà.
Ouais. Comment vous avez vécu avec ça? Vous aviez 8 ans. Hein.
Très mal, très mal. Donc très mal, j'explique, je vais essayer de faire au plus simple. Je me suis retrouvé en Haute-Savoie avec Denis Fabre, en pension, parce que je n'ai pas supporté le décès de mon papa.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et puis, il a fallu refaire sa vie, et puis c'est tout.
Mmh.
Ouais. Mais enfin, quelque part, pour répondre au monsieur qui a été interviewé avant moi, je suis bien content qu'on lui ait coupé la tête.
Ouais.
C'est légitime, évidemment, venant de vous, et avec ce malheur qui s'est abattu sur votre famille. Mais en tout cas, pourquoi vous nous avez appelé ?
Pardon ?
Pourquoi vous avez décroché votre téléphone aujourd'hui ? Vous vouliez dire un mot ?
Parce que bon, je suis tous les jours sur RTL. Je suis l'émission de M. Courbet. Puis, donc là, j'ai entendu que l'affaire Rapin passait à nouveau.
Bien sûr.
Que bon, l'affaire Rapin, elle est passée sur le glaive et la balance.
Ouais.
Elle est passée aussi sur... avec. Monsieur Pierre Belmar, etc.
Bien sûr, parce que c'est une affaire exceptionnelle, évidemment.
Oui, c'est une affaire exceptionnelle.
Mais il ne faut pas oublier, c'est pour ça que j'avais envie de vous avoir, effectivement, de vous prendre à l'antenne. Il
ne
faut pas oublier que derrière ces affaires exceptionnelles, il y a beaucoup de malheurs et il y a évidemment la peine des victimes, quoi. Voilà.
Oui. Et puis bon, il y a monsieur Alexandre Matisse qui a écrit un livre où je ne suis pas trop d'accord avec lui.
Mmh.
Enfin bon, bah voilà, c'est écrit, c'est écrit, ça a été publié, mais enfin bon, c'est pas pour moi, c'est pas tout à fait exact.
Voilà.
Puisque moi j'ai toutes les coupures de presse
de l'époque, ouais, bien sûr.
Du procès de l'époque. Elles sont un peu jaunies, on va dire.
Ben oui, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas, Bernard, hein, d'avoir aussi évoqué la mémoire de votre père, donc Roger Adam, pompiste à l'époque et victime de ce qu'on peut appeler un crime gratuit. Merci infiniment, Bernard. L'émission est terminée, Mathieu Frachon. On se retrouvera alors pour votre livre sur l'anti-gang.
On se retrouve bientôt, je pense, effectivement.
Et peut-être même avant, alors. Non, non, peut-être, je sais pas. On va voir. En tout cas, vous avez votre rond de serviette, comme on dit dans l'émission. Donc,
merci. Ça va, la table est belle.
Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir évoqué avec nous, monsieur Bill,
aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.
L'émission est terminée avec un peu de retard, mais ça, c'est comme d'habitude. RTL.